bonjour. Xavier Delaporte, vous voulez revenir sur un autre projet de loi, le projet de loi antiterroriste du gouvernement, du point de vue de la technique.
Oui, bonjour Guillaume, bonjour à tous. Quand on traîne dans le monde numérique, on croise vite beaucoup de gens qui sont très suspicieux vis-à-vis de tout ce qui pourrait porter atteinte aux libertés individuelles. Sans doute l'effet d'une tradition libertaire toujours à l'œuvre parmi nos amis les geeks. Ainsi, dès qu'une mesure instaure un peu plus de contrôle sur l'Internet, dès qu'est autorisé l'usage d'un outil qui pourrait surveiller un peu les réseaux, tous les défenseurs de l'Internet libre et ouvert se dressent comme un seul homme, et de fait ils sont souvent des hommes, et agitent les spectres bien connus, la fin de la vie privée, 1984 et Big Brother, etc. Pour le journaliste qui suit ces questions, l'alternative est simple. Soit accepter une sorte de syndrome de Stockholm, et parce que ces hypersensibles de la liberté sont bien souvent les plus bruyants et les plus brillants de notre monde numérique, à chaque fois donc faire sienne leur indignation. Soit, un peu blasé par l'habitude, se dire « bah, ils vont encore nous ressortir le totalitarisme rampant » et attendre le prochain soubresaut. Alors pour des raisons psychosociologiques dont je vous épargnerai les détails, mais qui me conduisent quand même à un mélange affligeant de confiance en l'être humain et de légitimisme qui, en 1940, m'aurait conduit, il est certain, à un pétinisme bonhomme, je penche, en général, pour la seconde attitude. Et donc, à chaque fois, je me dis que mes amis défenseurs de liberté numérique ont des inquiétudes excessives. Et puis, voilà. Parfois, légitimisme et confiance en l'être humain sont mis à mal. Ce fut le cas hier quand Le Monde a fait état de sa lecture du projet de loi pour renforcer la lutte contre le terrorisme que le gouvernement a présenté hier matin devant le Conseil de défense. Il s'agit d'une quasi-transposition dans le droit commun des mesures prises sous l'état d'urgence. Pour le dire autrement, l'état d'exception deviendrait un état permanent. Alors je m'en tiens aux aspects qui induisent des outils technologiques. Par exemple, je cite Le Monde. Pour ce qui est des perquisitions administratives, c'est là encore un copier-coller de l'état d'urgence. Ainsi, l'exploitation des données numériques, des ordinateurs et autres téléphones portables saisis sera soumise à l'autorisation du seul juge administratif et non d'un juge judiciaire. Rendez-vous compte un instant. Il serait donc permis à la police, sous aucune autre autorité que celle du ministère de l'Intérieur, d'avoir accès à l'entièreté de la vie du numérique d'une personne suspecte. Réfléchissez un instant à tout ce que contiennent comme information vos téléphones, vos ordinateurs. Pour des suspects de terrorisme, direz-vous oui, sauf que sous l'état d'urgence, des perquisitions administratives abusives ont été relevées en nombre. Et le bracelet électronique maintenant. Je cite encore, le texte va même au-delà de ce que la place Beauvau a mis en œuvre depuis 18 mois. Le ministre de l'Intérieur pourra ainsi décider de placer toute personne suspecte sous bracelet électronique. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'il suffirait donc d'être suspect et donc coupable de rien encore, pas condamné par la justice, pour être contraint. C'est donc là rien d'autre qu'une inversion complète du paradigme du droit. Pensez que, sous l'état d'urgence, ont été assignés à résidence des militants écologistes, par exemple. Le Monde est moins précis quant à l'usage permis aux services de renseignement de la surveillance des communications hertziennes. Manifestement, le gouvernement se fout totalement que cet usage ait été censuré par le Conseil constitutionnel au sujet d'un article de la loi renseignement de juin 2015 qui proposait déjà cela. Ben oui, parce qu'une surveillance des communications hertziennes non contrôlée, c'est en gros la possibilité de surveiller tout type de communication. Parce qu'à un moment ou un autre, tout passe par le hertzien. La formule communication hertzienne peut recouvrir ce qui transite entre un téléphone portable et une antenne relais, un ordinateur et une borne Wi-Fi, un opérateur internet et un satellite, et même une carte bancaire sans contact et un lecteur, comme l'expliquait Libération à l'époque. C'est donc, selon le langage pondéré du Conseil constitutionnel, une, je cite, « atteinte manifestement disproportionnée à la vie privée ». Le fait même que de telles mesures puissent être envisagées est à peu près le pire cauchemar de toute personne un peu soucieuse des libertés. L'avocat François Sureau, qui n'est pas un gauchiste, était venu mardi dernier s'en émouvoir ici même. Mais c'est aussi un usage très retors de la technologie. Il s'agit de profiter de son caractère moins contraignant sur les corps, le bracelet électronique ce n'est pas la prison, direz-vous, de profiter d'une intrusion apparemment moindre, eh ben oui, surveiller les ondes, ce n'est pas comme ouvrir le courrier ou installer des micros dans un domicile, de profiter aussi du fait que nos élus n'y comprennent pas grand-chose, pour outrepasser des règles qui sont au fondement de l'état de droit. Et voilà comment, parfois, on a envie de se jeter aux pieds des défenseurs de liberté numérique pour demander pardon de nos négligences et pour pleurer ensemble sur l'impossibilité d'être légitimiste et confiant dans l'être humain.